France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
C'est un terme discret et omniprésent, un terme qui occupe l'actualité des guerres au Proche-Orient, à la lutte contre le réchauffement climatique et dont la compréhension permet de mieux saisir les transformations que nous vivons. En matière militaire, on parle de zones libres, de zones occupées, de zones démilitarisées dans l'aménagement du territoire, de zones à urbaniser par priorité, de zones de revitalisation rurale, de zones naturelles d'intérêt écologique en économie, de zones franches, de zones de libre-échange, de zones monétaires en politique, de zones à défendre. Alors comment la zone, cette notion, ce concept peuvent nous permettre de mieux nous situer, de mieux saisir ce qui nous arrive. Pour en parler, une invitée, Jeannette Lin, bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup.
Merci à vous d'être là, vous êtes philosophe, enseignante à l'École supérieure des beaux-arts de Montpellier. Vous êtes chercheuse associée à l'Université Paris-Nanterre et vous faites paraître cet ouvrage intitulé « Zone, terre, sexe et science-fiction » aux éditions Flammarion. Merci à vous d'être présente ce soir dans Question du soir.
Israël dit étendre, je cite, son offensive militaire dans la bande de Gaza. Déclaration ce matin du ministre israélien de la Défense. Selon lui, l'armée va élargir ses opérations pour saisir de larges zones de l'enclave palestinienne afin de créer des zones de sécurité. Explication depuis Jérusalem d'abord avec Stéphane Amar.
Depuis le début de l'offensive israélienne, il y a le contrôle de ces zones tampons, ces zones qui se situent le long de la bande de Gaza. Vous savez qu'au cours de cette offensive israélienne, surtout dans les premiers mois, des quartiers entiers de la bande de Gaza ont été littéralement détruits par les bombardements israéliens. Ces quartiers se trouvent précisément dans ces zones frontalières et Israël veut éviter à tout prix que le Hamas ou un autre mouvement qui viendrait après lui ne puisse en reprendre le contrôle et recommencer une invasion telle que celle du 7 octobre.
Et on apprenait hier par la voix du ministre israélien de la Défense que l'armée israélienne n'évacuerait pas les zones nettoyées et occupées après le conflit. L'armée israélienne restera déployée dans les zones de sécurité qu'elle a créées. Comment ce concept de zone, Jeannette Lin, vous permet de mieux comprendre peut-être ce cas spécifique de Gaza? Comment même au-delà, la zone vous permet de mieux comprendre ce qui se passe dans cette région?
Eh bien, disons que là, ce qui est assez frappant dans ce cas, c'est de voir que le concept de zone est avant tout, ou en tout cas au départ, un concept militaire qui trouve donc son origine dans le lexique militaire, mais qui s'est progressivement ensuite étendu à des domaines comme la planification urbaine, l'aménagement du territoire, la libéralisation économique. Et ce que, dans le cas de cité présentement, on voit très bien que le zonage, c'est d'abord une pratique exercée par un pouvoir souverain, ici en l'occurrence le pouvoir souverain dans sa forme la plus essentielle, qui est le pouvoir militaire, et qui donc consiste à préempter une portion de territoire pour la déqualifier, c'est-à-dire lui enlever toutes ses particularités individuelles. En l'occurrence, ici, ça prend la forme d'une destruction systématique du bâti, des infrastructures, mais également un déplacement forcé des populations pour, en fait, rendre cette portion de territoire vierge et vide afin de la requalifier, c'est-à-dire de lui assigner des nouvelles fonctions, des nouveaux usages, des nouvelles activités qui seront, en fait, à travers des réglementations spécifiques à ces espaces-là.
Est-ce que c'est une forme de déshumanisation, c'est ce que je me dis en vous écoutant, une déshumanisation qui passe justement par ce travail sur le territoire, par cette requalification même du territoire?
Disons que ce qui, dans le zonage comme technique de gouvernement, ce à quoi on assiste, c'est à la manière dont en fait on utilise les outils du pouvoir souverain, de la souveraineté, pour en fait en faire de la gouvernementalité. C'est-à-dire, si je reprends la distinction proposée par Michel Foucault, la souveraineté se définirait comme un pouvoir qui laisse vivre mais fait mourir, à travers notamment la question de la punition. Alors que la gouvernementalité est un pouvoir qui, au contraire, fait vivre, s'intéresse aux conditions de vie à travers la santé, l'éducation, mais laisse mourir des parties de populations jugées indésirables, qu'on va laisser à l'abandon, voire que l'on va en fait exterminer. Et donc, la zone, c'est même si dans le cas de Gaza, on a le sentiment d'être face à une forme très classique de pouvoir qui est la souveraineté militaire, en fait, ce à quoi on voit, on assiste, c'est la manière dont la souveraineté est mise au service d'une autre forme de pouvoir, qui est la gouvernementalité biopolitique, en l'occurrence. Et ça nous éclaire sur la manière, sur le fait que ce qui se passe dans le cas de la zonification de Gaza, c'est pas une espèce de reliquat de l'ancien monde, mais en fait c'est une forme de pouvoir beaucoup plus moderne, beaucoup plus subtile et omniprésente. Et c'est pas un hasard, il me semble, que quelqu'un comme Donald Trump puisse dire que Gaza va être la nouvelle Côte d'Azur du Moyen-Orient. Puisqu'en fait, pour les gens comme Donald Trump, c'est-à-dire des gens très proches du libéralisme autoritaire et de la pensée libertarienne, la zone, et je me réfère ici par exemple à des discours de Peter Thiel, Elon Musk ou Curtis Yarvin, la zone est en fait une sorte d'utopie libertarienne où on va se saisir des instruments du pouvoir de l'État pour, et donc à savoir ses prérogatives souverainistes, la sécurité intérieure, la sécurité extérieure, pour en fait créer des enclaves où là, il y aura des exemptions aux normes sociales, aux normes environnementales, aux normes fiscales, aux normes démocratiques, pour laisser faire en fait un marché libre, un capitalisme sauvage, et qui est en fait la réalisation de leur fantasme libertarien.
Vous avez utilisé les deux notions justement pour bien nous faire comprendre votre raisonnement. Qu'est-ce qui différencie la zone du territoire ?
Disons que le territoire, c'est un concept qui a une histoire et aussi une historiographie qui le rattache à donc une forme de pouvoir qui est celle de la souveraineté étatique et qui repose sur une certaine conception de l'espace où l'espace est une étendue homogène, uniforme, que l'on peut ensuite diviser, délimiter par des frontières. Et chacun de ces territoires va être en fait le lieu où s'exerce la souveraineté d'un État de manière absolument exclusive. Personne d'autre n'a l'autorité sur ce territoire, mais à condition en fait de reconnaître la souveraineté de ses voisins, des autres territoires. Donc c'est le principe de non-interférence en fait, et donc ce qui suppose que chaque territoire est en fait équivalent. Et donc que les unités spatiales en jeu dans cette division de l'espace, ce sont des parties qui sont de même nature.
Ce qui est passionnant dans votre ouvrage intitulé « Zone, Terre, Sexe et science-fiction » et qui vient de paraître aux éditions Flammarion, c'est qu'il est peut-être illustratif d'une bascule plus large de la géographie, plutôt de l'histoire vers la géographie justement, et de la philosophie de l'histoire vers une philosophie de l'espace. En quoi cette bascule justement nous permet d'avoir une approche différente du monde ? Pourquoi utiliser les outils spatiaux, la géographie, pour comprendre encore une fois ce qui nous arrive ?
Bien, disons que là encore, c'est Michel Foucault qui disait que peut-être qu'aujourd'hui nous vivons dans une époque où l'espace est la catégorie qui définit notre moment présent. C'est-à-dire, autant la question du temps, de l'histoire ont été centrales au 19e et au 20e siècle chez des philosophes évidemment comme Hegel, Kant, Marx et puis Bergson, autant aujourd'hui nous vivons dans un contexte où dont je parle dans le livre j'appelle la fermeture du globe. Dans laquelle, en fait, c'est la question de l'espace devient la question centrale, notamment à travers des questions de coexistence, d'habitation de la planète, de partage d'un espace globalisé. Et il semblerait que la réflexion philosophique et les sciences humaines et sociales, aujourd'hui, essayent de revisiter des concepts spatiaux pour nous aider, en fait, à prendre en charge et à saisir ces enjeux contemporains.
Alors faisons justement avec vous, Jeannette Lin, l'histoire de ce concept, hein, celui de zone, et repartons du début. La théorie des zones est apparue en Grèce antique au 5e siècle avant Jésus-Christ. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Pourquoi les zones occupent une place centrale, notamment dans la façon de se représenter le monde ?
Alors, le concept de zone dans la cosmologie grecque antique est une manière de diviser l'espace terrestre en 5 zones qu'on connaît sous les noms de zones torrides, glaciales et tempérées en fonction des relations de la Terre avec les rayons du Soleil. Et en fait, dans la cosmologie grecque antique, ce concept de zone, c'est une manière de situer la Terre au sein du cosmos et de la comprendre à la fois dans une réflexion comme un tout, parce que en fait les cartes à zones, comme on dit, elles se distinguent de la plupart des cartes qui leur sont contemporaines, où d'habitude ce qu'on représente c'est l'espace connu. Ce qu'on appelle l'œcumène grec, hein, le monde habité et connu, alors qu'en fait, les cartes à zones, au contraire, vont représenter l'ensemble de la Terre, y compris les espaces inconnus et même inconnaissables, puisque c'est adossé à une division de l'espace terrestre où c'est des frontières infranchissables. On ne peut pas aller dans la zone torride parce qu'il y fait trop chaud et que c'est inhabitable et qu'on y mourrait.
Que se passe-t-il pour ces cinq zones grecques lorsqu'on découvre que la Terre est ronde et que donc par conséquent il faut sans doute tout repenser, en tout cas refonder cette approche des zones ?
Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'au XVIe siècle, on assiste donc à une révolution géographique du fait des évolutions des pratiques de navigation et on change de concept de Terre. On arrive à cette idée que la Terre est un globe uniforme, homogène, qui n'est pas divisé en zones différentiellement habitables. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on se met à la découper en territoire, parce que ça rend possible ce type de pratique. Et la zone est donc un terme qui, à partir du XVIe, disparaît, devient obsolète. Et c'est intéressant de remarquer qu'il réapparaît précisément au XIXe siècle, comme je le disais, à travers le lexique militaire, l'aménagement du territoire, progressivement en fait dans un contexte où le globe s'est refermé, c'est-à-dire que finalement toute la surface du globe terrestre est pavée de territoires, d'États souverains, avec évidemment les mouvements de décolonisation, et qu'on est face à un besoin de rediviser l'espace pour pouvoir en fait le redynamiser. Et c'est là où la zone intervient dans ces pratiques-là.
Je voudrais vous faire entendre une archive. On est situé à Paris, hein, juste aux frontières de Paris, dans cette zone circonscrite par les frontières de Paris. On va entendre des zoniers, leur histoire et la façon dont Paris est repensée du point de vue spatial.
Petit à petit, comme ça, des petites maisons qui viennent, qui commencent à se construire à droite à gauche. Et peu à peu, on va arriver à la fin du siècle dernier avec des cités comme ça installées, alors sans eau, sans électricité évidemment, puisque c'est une zone non édificandie, il n'y a aucune viabilité, il n'y a aucun moyen d'hygiène, il n'y a pas moyen de s'éclairer. Il y a à la fois les gens qui viennent de la campagne, qui vont s'installer sur la zone, et il y a aussi des gens qui sont chassés de Paris par les loyers trop chers. Alors, c'est très inégal. Il y a des endroits où c'est vraiment des cités lépreuses, c'est vraiment des taudis. Et on imagine bien l'hiver à 5 heures du soir, cette espèce de no man's land sans électricité, ça fait peur. Plus tout ce qu'on y raconte comme histoire, évidemment, il y a une mythologie qui s'est développée autour de la zone, qui n'était pas forcément juste. Les romanciers ou les journalistes ne se sont pas privés d'inventer tout ce qui pouvait se passer de sombre, de monstrueux, derrière ces volets, derrière ces rideaux sales. On prête aux zoniers, et plus particulièrement aux zonières, une sexualité débordante et dévorante, alors que, bon, on n'en sait rien.
Jadis, au lieu du jardin que voici, c'était la zone et tout ce qui s'ensuit.
Et la voix de Georges Brassens qui chante ce titre intitulé La princesse et le croque-note. Qu'est-ce qui, Jeannette Lin, qu'est-ce que c'est que ces zones qui entouraient alors Paris? De quoi s'agissait-il? Dans le fond, qu'est-ce qu'on vient d'entendre là?
Alors, la zone de Paris, c'est une bande de terre située à l'extérieur des fortifications de Thiers, qui entourait donc Paris au XIXe siècle, et qui est donc déclarée non constructible, puisque, en fait, c'est une bande de terre qui sert à voir arriver les armées ennemies et à empêcher que ces armées escaladent, puissent s'appuyer sur du bâti pour escalader les fortifications. Il se trouve que donc cette bande laissée non occupée accueille en fait des populations marginales, précaires, qui n'ont pas les moyens de se loger à l'intérieur de la capitale et qui donc s'installent dans la bande, dans la zone de Paris, dans des constructions bricolées. Et qui, la plupart du temps, sont en fait des ouvriers venus faire les travaux d'haussmannisation ou des employés de maison, des domestiques. Mais sauf que cet espace vide autour de Paris qui ne cesse de grandir au cours du 19e siècle attise toutes les convoitises et devient un enjeu crucial de l'aménagement du territoire. Et c'est la zone de Paris devient le lieu aussi en fait de la naissance de l'urbanisme à proprement parler comme une discipline et toute une série de projets d'aménagement de cette zone-là, une fois qu'on aura démantelé les fortifications, se succèdent. Et on retrouve vraiment ce mouvement que je décrivais d'un passage d'un pouvoir souverain d'essence militaire à un pouvoir de gouvernementalité qui vise en fait à gérer le quotidien.
Est-ce que c'est une illustration de plus qui raconte qu'au fond, une zone, c'est toujours un espace d'exception, un espace à part, un espace qui n'a rien à voir peut-être avec les autres territoires qui l'entourent et qui l'excluent pratiquement ?
Alors, la zone, effectivement, est un espace qui se présente comme un espace d'exception, non seulement parce qu'il est marginal, qu'il est à l'écart, mais le plus souvent aussi parce qu'en fait, il obéit à des lois qui ne sont pas celles du reste de l'espace dans lequel il se situe. Dans le cas, des zones spéciales économiques ou des zones franches, c'est un certain nombre d'exemptions légales sur la fiscalité, sur le droit du travail. Néanmoins, ce ne sont pas ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que c'est pas simplement des espaces qui sont leur caractère d'exception, comme le veut l'adage, c'est de devenir la règle. C'est-à-dire que c'est des espaces où vont s'expérimenter un certain nombre de normes sociales, de normes de gouvernementalité qui vont devenir en fait la nouvelle règle générale et qui donc en fait, on voit qu'ici, c'est parce qu'on prend un bout d'espace, qu'on le soustrait à la règle générale, que l'on peut ensuite venir modifier cette règle. Et donc, c'est la partie qui vient transformer le tout. Et donc, c'est une nouvelle relation entre les parties et le tout qui fait, en fait, qui permet que du changement se produisent.
D'où vient le fait que la zone est souvent connotée d'une manière péjorative? On parle de la zone souvent avec un immense dédain et parfois aussi une profonde distance.
En l'occurrence, dans le contexte francophone, c'est vraiment lié à l'histoire de la zone de Paris, puisque l'expression dire c'est la zone pour désigner des faubourgs ou des espaces marginaux, précaires, voire dangereux, c'est une sorte de métaphorisation de la zone de Paris qui, au départ, renvoie à une réalité historique et géographique précise.
Je voudrais qu'on bascule dans le champ politique, tenter de comprendre comment la zone nous permet aussi de comprendre certains militantismes et notamment une zone bien connue, des zones bien connues, des zones à défendre.
C'est évident que nous, on va continuer à se battre pour pouvoir rester ici. Donc on va le faire aussi avec toutes les composantes, toutes les personnes qui ont mené cette lutte jusqu'à cette victoire, en fait. Et voilà, la lutte, elle continue, en tout cas pour nous. Et on habite ici depuis plusieurs années pour certains, donc on va pas partir comme ça.
Ce qu'on exige, c'est que les 2000 hectares de terre qui ont été concédés à AGO Vinci pour construire cet aéroport, ce projet dont l'État lui-même, en abandonnant, a reconnu qu'il était inutile et qu'il n'était pas d'utilité publique, on veut maintenant que ces 2000 hectares de terre soient attribués à une entité issue du mouvement de lutte dans toutes ses composantes, qui détermine leur usage et qui permette des nouvelles installations agricoles.
On est en train ici de construire un autre futur.
Jeannette Lin, est-ce qu'une zone à défendre, c'est pas la tentative de construire là aussi une exception, mais une exception peut-être utopique pour certains ?
En tout cas, c'est vrai que la ZAD, la zone à défendre, est vraiment une opération de réflexivité critique sur comment fonctionne le zonage. Puisqu'au départ, c'est une zone d'aménagement différé, où il s'agit de construire un aéroport et donc, effectivement, de participer à des processus de modernisation. Le fait de...
Vous parlez de Notre-Dame-des-Landes, évidemment.
Oui, de Notre-Dame-des-Landes. Et donc, les zones à défendre, c'est une manière de renverser la géographie sur elle-même, d'opposer à une géographie qui fonctionne par morcellement, fragmentation, zonage, un autre type de zonage, mais cette fois-ci qui irait en direction de transformation sociale, émancipatrice, en tout cas qui servirait d'autres types de projets politiques.
Pourquoi pensez-vous, pourquoi écrivez-vous même que penser la zone, c'est nécessaire pour penser l'avenir de l'habitabilité de la planète? Quel lien faites-vous entre ces zones, ces exceptions dans l'espace et la façon dont plus globalement, d'une façon même générale, on pense l'habitabilité de la planète?
Alors en première partie, je dirais quand même que quand on fait l'histoire de la zone, on fait l'histoire de l'aménagement du territoire, de la modernisation, de l'urbanisation, de l'industrialisation, qui sont autant de facteurs qui ont participé à ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène, c'est-à-dire au fait que les activités humaines sont devenues des forces géologiques qui transforment et déstabilisent le système Terre. Donc, en fait, faire l'histoire de la zone, c'est aussi faire une histoire beaucoup plus vaste, qui est celle de l'appropriation de la terre, de ses usages, de ses mises en valeur, de son exploitation. Mais une autre raison pour laquelle je dis ça, c'est que, en même temps, et ça rejoint la question de la cosmologie antique, la zone est dès le départ une réflexion sur l'habitabilité de la planète.
De quelle façon ?
Puisque la division en 5 zones dans la cosmologie grecque antique, c'est une division entre les zones qui sont habitables et les zones inhabitables. Donc habitables tempérées, inhabitables, c'est les zones torrides et glaciales. En fonction de leur relation au soleil et donc de sa position dans le cosmos. Au rayon du soleil. Et donc c'est aussi une réflexion sur sa position dans le cosmos. Et aujourd'hui, il est frappant de constater que le terme de zone revient dans les recherches scientifiques les plus récentes dans les sciences de la Terre, à travers le concept de zone critique, qui désigne cette partie de la Terre, cette fine pellicule terrestre située entre la canopée des arbres et les eaux souterraines, où en réalité, l'ensemble des processus planétaires qui rendent la vie possible, c'est-à-dire qui rendent la planète habitable, se situent. Donc le cycle du carbone, le cycle de l'azote. Et c'est une image d'une autre Terre qui nous est montrée à travers le concept de zone critique, puisque c'est une Terre qui est en mouvement permanent, qui est en transformation constante, qui est dynamique, où la matière circule, se transforme, où la géologie rencontre la biologie. Et il me semble, ce que j'essaye de montrer, c'est que le concept de zone, il intervient ici précisément parce qu'il permet de penser le dynamisme propre à cette conception de la Terre.
La singularité, la force aussi même de votre livre, Jeannette Lin, c'est de brasser large, si je puis dire, puisque vous abordez la zone sous le prisme de la géographie, mais également sous celui du cinéma, de la psychanalyse. On va s'intéresser un instant au cinéma à travers un film, Stalker, de Tarkovsky, du cinéaste soviétique Tarkovsky. On en écoute un extrait, ce moment justement où les personnages pénètrent dans la zone.
Господи, а где же они что, так здесь и остались, люди?
А кто их знает? Помню только, как они грузились у нас на станции, чтобы идти сюда, в зону. Я еще мальчишкой был. Тогда все думали, что нас кто-то завоевать хочет. Умники. Давайте вы, профессор. Вы писатель?
On s'est demandé s'il fallait ou non traduire justement du russe vers le français. On s'est dit que c'était agréable d'entendre une autre langue sur France Culture ce soir. Mais dites-nous justement, Jeannette Lin, que raconte non pas cet extrait, mais le concept de zone dans l'œuvre de Tarkovsky, dans ce film-là plutôt en particulier, Stalker?
Alors, dans Stalker, la zone est un lieu où se rendent de manière illégale des personnes, puisqu'il est dit qu'on peut y exaucer ses souhaits, ses vœux, donc en l'occurrence...
Les souhaits les plus fous.
Les souhaits les plus fous. Et là, on a bien un exemple de la zone comme étant un opérateur de transformation du monde, et parce que réaliser un souhait, c'est rendre l'impossible possible. Et donc, c'est changer quelque chose dans l'ordre du monde qui, autrement, n'aurait pas pu advenir. Donc, c'est le deus ex machina. Et la zone, dans le film de Tarkovsky, elle a ce pouvoir-là précisément parce qu'elle n'obéit pas aux lois habituelles, que ce soit les lois de la nature, les lois de l'histoire.
d'un mot très court, parce qu'on arrive déjà au terme de cette émission. Est-ce que justement, un mot sur votre méthode, est-ce qu'il faut brasser large pour montrer, démontrer l'unité d'un concept? Quand on parle de zone corporelle grâce à la psychanalyse, quand on parle de zone chez Tarkovsky, quand on parle de zone à défendre ou de zone franche, qu'est-ce qui fait l'unité de ce concept de zone? Est-ce que cela a même du sens de rapprocher tant d'ensembles différents?
Ce que j'ai appelé zoner la zone dans le livre, c'était précisément de chercher à suivre un concept là où il intervenait pour résoudre des problèmes, non pas pour essayer de donner une définition de la zone, mais pour montrer que c'était un concept qui avait des opérations effectives, qu'il traversait les pratiques, les usages, les discours, peu importe les disciplines, peu importe s'il s'agit de science, d'art ou de politique, et que c'est précisément parce qu'il était omniprésent et qu'il avait ce problème commun qu'il était au cœur de notre expérience.
Merci beaucoup Jeannette Lin. Je rappelle donc le titre de cet ouvrage, Zone au pluriel, Terre, sexe et science-fiction. C'est aux éditions Flammarion. Merci d'être venu ce soir.
Merci
dans
beaucoup.
Question du soir.